Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
Il est 17h02, on y revient au Mastic, on est dans le super Moscato Show. On est avec Eric Dimeco, Denis Charvet. On est sur RMC, 15h-18h tout le jour. Adrien Aiguet, mon petit Pierrot, dans demi-heure, fais-moi claquer le
verre. Alors, c'est un cri de gueule. La Coupe du Monde à 48, c'est pas validé. Ouais. Enfin, pas validé par. C'est pas le tampon Pierre Dorion. Mais c'est important ce tampon-là.
Tu gueules aujourd'hui, t'as des cris de gueule.
Ouais, exactement.
Wemby.
Ouais, mais c'est argumenté.
Tu dois réussir. T'es un peu grognon, il doit se passer le truc dans ta vie, Pierrot.
Wemby, c'était pas très argumenté.
C'est une analyse intéressante.
C'est la chaleur.
Ça le rend un peu.
C'est la chaleur.
Est-ce que t'auras la même question, Pierrot? On l'avait annoncé que ce serait quand même compliqué à 48.
Après, il fallait voir quand même, juger sur pièce, comme on dit quand même.
Oui. Donc là, tu vas t'adresser à Gianni Infantino.
Gianni, ce qui est bien, c'est qu'on peut tout lui dire, ils sont fous, mais alors lui,
il a dit il y a trois jours, c'est le meilleur événement de l'histoire du sport. Voilà. Que j'organise.
48 clubs, 3 pays différents, 3 pays différents aussi, il faut en parler quand même, les 3 pays
différents. Et dis-moi, Pierrot, et sur Angleterre-Ghana, la VAR, elle était en panne, c'est ça?
Ah oui, la VAR, elle était pas là.
Mais d'ailleurs, le sélectionneur du Ghana, l'Adnan, ironiquement, en conférence de presse, ah bon, la VAR fonctionnait. Bon, très bien.
Non, mais là, c'est pas possible.
Non, c'est pas,
tu dis rien, Eric, toi. Toi, tu dis rien.
Non, mais Vincent nous a dit que ça. Ça marcherait bien. Donc, il n'y a pas de souci. Mais quand la voiture, il y a des voitures qui marchent bien, si tu ne sais pas la conduire. C'est pas la voiture qui déconne.
C'est ça.
Le problème, il est là. Vous êtes des bons à Nib, donc vous n'y arrivez pas. Ça fait 5 ans qu'il faut mettre le magnétoscope, la prise, vous trompez de prise, le magnétoscope.
Et donc, d'après toi,
qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Donc, d'après toi, Vincent, il faudrait qu'on prenne. Il faudrait qu'on prenne des mecs du rugby pour que ça marche.
Oui, c'est génial. Oui. Les mecs de la NASA de 12.
Ça marche, oui. Allez, tout de suite, vendre une chèvre, il faut un vrai savoir-faire.
Agile, au poil plutôt long.
Rinouti s'élance la frappe et le but.
La chèvre du Massif Central.
Hey, Defaba, il a mauvais caractère, qu'est-ce que je m'en fous?
La foire, c'est l'occasion d'acheter des spécimens.
Au Grimoun et Grenet, les deux. Au Bamayan et Grimoun, les deux.
Et d'échanger entre éleveurs.
Le football, c'est une pyramide.
Le producteur, il est toujours le baiser de la farce.
On est les dindons de la foire.
Glou, glou, glou.
S'assurer du caractère rustique des boucs.
Quand tu secoues la pyramide un peu, ça a des retombées pour les joueurs. Mais il y a une minorité des joueurs qui en profitent.
Qui ont des anésisations qui sont pas à la hauteur de leur perte.
Alors que cette chèvre a failli disparaître.
Preuve qu'il a une grande faculté d'adapter.
Une fête grand public où la biquette fait son show.
Et je m'en souviendrai toute.
RMC,
la chute,
gros débat,
elle est énorme.
Super Moscato.
Mais non, mais quand même, à un moment donné, il faut arrêter quand même.
Pas de la vie, ça.
Ah oui.
Il est ému.
Non, mais si je peux me permettre.
Non, mais j'étais ému. Ça m'a fait beaucoup de peine.
Parce que des fois,
quand
t'arraches sur un mot, ou quand t'accroches plutôt, c'est rigolo en soi. Là, ça n'est rigolo que hors contexte.
Mais non.
Parce que sur le moment, on était que gênés.
Non, non, non. Moi, je rigolais, j'étais en régie, je rigolais, je peux te dire.
Tu sais quoi? Tu as rigolé, mais tu l'as payé.
Non, je pleurais de rire. Qu'est-ce qu'il fait?
C'était
avant 2016, du coup 2015 ou 14, le décès de Johan Cruyff.
On accueille Florent Germain. Alors Florent, il est toujours à Boston, mais il bosse en même temps sur l'OM. Évidemment, les journées sont longues. Salut Flo.
Salut à tous. Je vais finir par revenir à Marseille. Ça va être plus simple.
Écoute,
oui.
On souhaite que tu restes le plus longtemps possible. Ça voudra dire que les Bleus iront loin dans cette Coupe du Monde.
J'espère.
Donc l'OM. Alors l'OM doit vendre rapidement. On le sait, dans l'idéal avant le 30 juin, c'est-à-dire mardi prochain. L'OM n'est pas satisfait des offres pour Mason Greenwood jusqu'à présent. Alors il faut dire qu'il n'est pas pisté par les plus grands clubs européens, donc les plus riches. Pour le moment, c'est la Roma et Fenerbahçe, en attendant peut-être d'autres offres. Et c'est l'occasion de se demander quelle est la valeur de Greenwood. Alors il y a évidemment deux aspects qui sont liés, sa valeur sportive, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a souvent évoqué dans la saison sportive de l'OM et de Greenwood. On se posait la question, quel est son plafond, jusqu'où peut-il aller, dans quel type de club peut-il jouer, et puis quelle est sa valeur économique, c'est-à-dire aussi à quel montant l'OM doit le lâcher, parce que si c'est pour récupérer des fifrelins, comme disent Vincent et Eric,
fifrelins,
finalement c'est peut-être mieux de le garder.
Non, comme dit Vincent, pas moi.
Un petit peu, tu le dis.
32-16,
donc Flo, d'abord on va faire point sur les offres existantes pour Greenwood. Alors on se parle.
Oui, alors il y en a forcément parce que c'est un joueur qui a mis 48 buts sur les deux dernières saisons. Même s'il y a une particularité pour les raisons que l'on sait, c'est que le marché anglais ne s'intéresse pas à Mason Greenwood suite à l'affaire dans laquelle il a été impliqué il y a quelques années. Donc l'AS Roma, violence conjugale. L'AS Roma s'intéresse à Greenwood depuis déjà quelques semaines. C'était le club le plus chaud, sauf que ils sont eux aussi les Italiens de la Roma sous les radars de l'UEFA. Donc ils doivent vendre avant de se positionner. Et pourtant Gasperini, l'entraîneur de l'AS Roma, a fait de Mason Greenwood sa priorité. Donc ça restera un dossier à surveiller. Dans le même temps, le clan Greenwood s'est mis d'accord avec un club turc, Fenerbahçe. Donc c'est le joueur et son entourage qui sont d'accord sur le contrat, sur le salaire. Mais par contre, Fenerbahçe ne proposerait que 30 millions d'euros à l'OM. Et Marseille en veut quasiment le double. En gros, 50-55 millions, on commence à discuter, parce qu'il faut rappeler que Marseille, normalement, doit reverser 40% de la somme à Manchester United. Donc évidemment, ça entre en ligne de compte du côté de l'OM. Après, il y a une opportunité qui peut se dégager, même si on n'a pas de club précis, mais on m'a fait savoir ces dernières heures que certains clubs du golf pourraient se positionner sur Mason Greenwood, ce qui changerait totalement la donne, même si évidemment la situation géopolitique fait que c'est pas si évident que cela, mais si un club du golf venait à se positionner, évidemment financièrement ça pourrait être intéressant pour l'OM. Ce qu'il faut résumer et expliquer aussi, c'est que notamment dans le dossier Fenerbahçe, l'OM est confronté à un dégât collatéral quelque part de ses déboires financiers, c'est que les clubs acheteurs ou intéressés par un joueur savent que Marseille a besoin de vendre. Oui. Et donc les propositions sont automatiquement revues à la baisse. Et c'est le cas avec Mason Greenwood, où on estime que c'est presque un manque de respect de proposer uniquement 30 millions. Mais comme Fenerbahçe sait que l'OM a besoin d'argent, ils se sont permis sur la première offre un peu d'essayer de proposer beaucoup moins. Mais l'OM ne veut pas brader son meilleur attaquant et sa plus grosse valeur marchande.
Alors commençons par l'aspect économique, Vincent. Est-ce qu'il faut vendre coûte que coûte et rapidement pour faire rentrer de l'argent, se débarrasser d'un gros salaire, est-ce que tu te fixes une limite, toi?
Ça dépend l'actionnaire. Parce que si tu dois le vendre que dalle, c'est quand même un joueur qui est correct, qui est plutôt bon même. Pour Marseille, c'est même inespéré d'avoir un joueur comme ça. Même si au niveau de l'état d'esprit, bon, je pense que c'est plus un suiveur qu'autre chose. Mais bon, on peut se dire qu'il peut y avoir d'autres leaders. Et que dans un groupe pas mal, ça peut inquiéter. C'est pour le vendre et récupérer 15 briques. Il faut essayer de le garder. Parce que là, le problème, c'est que le tremplin de Marseille, comme tu nous dis, Eric, le tremplin, là, il n'a pas fonctionné. Hein. Pas du tout, là. Il n'y a plus les ressorts dessous. Donc, Greenwood, tu ne peux pas le vendre. Donc, il y a le vendre en Arabie Saoudite. Mais bon, le problème, c'est qu'en Arabie Saoudite, je ne pense pas qu'à 24 ans, il ait envie d'y aller là-bas. C'est quand même un enterrement de première classe. En Angleterre, les clubs où il y a de l'oseille, bon, ils n'en veulent pas. Je n'ai pas l'impression qu'en Allemagne, ils se battent. Moi, je serais eux. Ben, tant pis, hein. Ils ne vont pas récupérer le thune. Donc, ils vont récupérer.
Il y a l'Atlético qui s'intéresse aussi. Oui, à lui,
je pense que si tu arrives à négocier de le garder, de lui faire baisser un peu son salaire, moi je pense que le vendre 15 boules à un joueur comme ça, t'en retrouveras pas le même. À un moment donné, il va bien falloir quand même gagner quelques matchs l'an prochain.
Alors Eric, t'es sur la même...
Écoute, il y a plusieurs tiroirs là, dans ce débat, donc la valeur intrinsèque du joueur,
parlons-en après, restons sur la même idée que
d'accord.
Vincent...
Ah tu veux, pardon, oui, sur le côté économique.
Prenons d'abord le côté économique, et du point de vue de l'OM surtout.
Eh ben oui, mais non, mais c'est justement parler du côté économique. Tu es obligé de parler de la valeur du joueur.
Bien sûr,
le problème, c'est que l'OM va rentrer dans une année et avec la Ligue Europa où. Et Vincent l'a très bien dit, avoir Greenwood dans ton effectif, c'est presque inespéré. Voilà, parce que malgré tout, même si Greenwood, ce n'est pas un joueur de top 8 européen ou même top 16 européen, allons-y, on s'en fout. Ça veut tout dire et rien dire parce que ces équipes-là le changent beaucoup autour de la 10e place. Donc, mais c'est quand même un attaquant qui a un truc et donc. Pour l'OM version Ligue Europa et version comment on peut dire économie
version un peu dégradée, on va dire
voilà c'est inespéré. Donc c'est pour ça que moi je pense qu'il ne faut pas le brader. Je pense que et le gros problème c'est que comme tout le monde sait qu'on a besoin d'argent, ben les mecs bien sûr ils vont te proposer des cacahuètes. Mais moi je pense qu'il faut pas le brader parce que malgré tout dans la saison qui arrive pour l'OM. Greenwood, il va encore te faire des différences. Voilà, moi je te dirais pas la même chose si on avait des ambitions européennes, si on avait un effectif pour sortir de la poule de Ligue des Champions. Et on avait fait le débat l'an dernier sur son niveau. Moi je pense que il a une limite sur le très haut niveau. Voilà, mais pour l'OM de l'année prochaine, mais si Greenwood il est là, je suis content.
Avec hein, l'interrogation de savoir qu'est-ce voilà, qu'il pourra donner comme rendement s'il reste à contre-cœur aussi. Hein, ça
fait oui, alors, ça c'est un autre débat, là où tu as raison Pierrot, c'est que à un moment donné il va falloir sonder le joueur. Mais aller en Arabie Saoudite sportivement,
ouais,
pour lui, c'est pas terrible.
Ouais, c'est
aller à la Roma, là oui, ça il passerait un cap. Aller en Turquie, il joue quoi voilà, je pense pas non plus. Donc,
c'est quoi après... le club de Denis en Turquie?
Fenerbahçe.
Ah pardon, je pas j'avais pas su. Moi, je suis bête.
Déjà en stock. Hein.
Flo, je l'avais. T'inquiète.
Bien joué.
Donc, moi je le braderai pas. Après, le problème, c'est qu'il faut faire entrer de l'argent. Donc, ça veut dire que si tu ne brades pas Greenwood, tu vas être obligé de parce que si c'est pour le vendre 30 millions, il vaut mieux en vendre 4 autres 5 millions que lui 30 millions. Oui, mais en plus, il te reste même 30 millions. Voilà, donc c'est ça le problème, c'est que si c'est pour récupérer 18, il y a peut-être d'autres joueurs à vendre.
Denis, moi je crois qu'ils n'auront pas le choix, puis je pense que ils finiront par le brader, tu verras. Brader, c'est peut-être pas 30, mais ils monteront à 40. Et puis je pense qu'il faut tourner la page. Je crois pas qu'il faut garder un joueur qui a plus envie de rester.
Denis.
En tout cas, le clan cherche une porte de sortie, il cherche un grand club.
Après, il a compris depuis quelques temps que l'OM voulait le vendre parce que c'est une des valeurs marchandes. Donc
ça,
il l'a intégré. C'est vrai que dans un premier temps, d'ailleurs, il l'avait dit lui-même lors de la remise des trophées UNFP, il était plutôt. Il y a aussi un aspect personnel où en famille, il se sent bien là-bas. Il avait trouvé un certain équilibre. Il s'entend très bien avec, pour les petites coulisses, avec Jeffrey Delange, qui lui aussi est encore sous contrat. C'est le gardien remplaçant. Donc voilà, il se voyait bien rester, mais il a compris au fil des jours que l'OM avait besoin d'argent et allait sur.
Voilà. Après, sur
le pas un drame pour lui.
Eric, il vante ses mérites pour un club comme l'OM. Je pense qu'on peut être plus ambitieux. Je suis pas sûr que Greenwood, ça soit une bonne chose de le garder. Oui, non, mais bien sûr. Mais moi, je suis plus partant.
Ce que tu dis, tu récupères pas au moins 25 ou 30 boules, tu dis on ne vend pas.
Et voilà. Flo, c'est pas un piège du tout, mais qui gère ça là aujourd'hui? Qui gère ça au quotidien vraiment? Dossier Greenwood,
je vais te dire, c'est Mehdi Benatia continue d'aider Franck McCourt, même s'il a quitté l'Olympique de Marseille. Il n'y a pas que lui, mais il le fait en relation avec Grégory Lorenzi, qui est le nouveau directeur sportif. Stéphane Richard, qui effectivement sera nommé officiellement début juillet, mais qui est déjà aux affaires, on l'a compris. Mais c'est vrai que Mehdi Benatia, il fait des petites heures supplémentaires, en tout cas pour donner un coup de main dans le sens des départs, parce qu'il a un réseau et parce que...
Et au 30 juin, ça s'arrête. On est d'accord, le 30 juin, ça s'arrête son contrat, Mehdi Benatia.
Oui, bien sûr. Ouais. Enfin, après, moi, je sais pas. Je présage pas de ce qui va se passer en juillet. Non, mais si, il n'aura plus aucune fonction et il n'a plus. Non, mais il n'a plus déjà aucune fonction à l'OM. Hein. C'est pas une histoire de 30 juin. C'est que lui, il avait donné sa démission et le propriétaire lui avait demandé de juste terminer pour son préavis. Donc à la fin de saison, il n'est plus engagé à l'Olympique de Marseille. Après, tu peux effectivement, je sais pas dans quel cadre, continuer à donner. Un coup de main ou des conseils parce que tu as le sentiment que ta mission sera terminée que si tu as réussi à filer un coup de main à l'OM pour une ou deux ventes. On est sur ce scénario là.
17h17, quelle est la valeur de Mason Greenwood? On revient dans deux minutes avec la valeur sportive aussi. Jusqu'où peut-il aller? Dans quel club peut-il signer? À tout de suite.
RMC, le Super Moscato Show, la suite du débat.
7h21, quelle est la valeur de Mason Greenwood? Alors on va aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et le débat est intéressant. Fenerbahçe, la Roma, peut-être l'Atlético de Madrid. Eric, est-ce que, entre guillemets, tu es déçu par l'identité des clubs qui s'intéressent à Greenwood?
Non.
Tu trouves que ça correspond à sa valeur intrinsèque?
Oui. Alors bon, il y a le problème des Anglais. Bon, ça, on l'a compris.
Ils sont pas dans la danse. Okay.
Voilà, ils sont pas dans la danse. Donc, ok. Sauf que les Bayern, Dortmund, Leverkusen,
Juventus,
Juve, Milan, Inter. Bon, l'Atlético, franchement, c'est
le max.
Ce serait top pour lui, mais c'est pas étonnant si ces clubs-là ce qu'il a fait à l'OM, qui est extraordinaire pour nous parce que les stats sont là et c'était quand même un des rares talents de l'équipe et surtout un mec qui pouvait te faire gagner des matchs, mais il y a tout le reste et malheureusement pour moi je pense qu'il a pas ce qu'il faut pour passer dans ces clubs-là. Et c'est pas étonnant si ces clubs-là se penchent pas sur son cas. Parce qu'en plus, tout le monde sait qu'il pourrait le toucher pour pas très cher. Donc c'est bizarre que ces clubs-là ne viennent pas. Enfin, c'est bizarre. Certains vont dire c'est bizarre. Pour moi, c'est pas bizarre. C'est malheureusement il a trop de manque à l'intérieur de match et sur toute une saison pour ces top clubs là.
Oui, il y a trop de manque. C'est trois buts cette année en Ligue des Champions. Hein. Denis, t'es d'accord?
Pour moi, il a toujours été très inconstant. Voilà, c'est un joueur qui est agréable à voir jouer, qui a un toucher de balle magnifique, mais après c'est pas un leader. C'est tout sauf un leader. C'est ça le problème.
Pour quand ça s'en fout du leader.
Oui,
Denis,
si c'est important.
Et si tu vas dans une grande équipe. Il y a les leaders. Le problème de Greenwood, c'est que en Ligue des Champions ou contre Paris, contre Lyon ou contre Monaco, il est rarement décisif en réalité.
C'est ce que je dis.
Donc moi, je veux bien qu'il marque 50 buts en deux saisons. Mais si c'est contre, tu parles de la notion de leader.
Si,
leader,
je s'en fous. Dans ces clubs-là, il y a des leaders. Je me projette par rapport à l'année prochaine. Imagine qu'il joue dans une équipe où effectivement l'équipe va être changée, il va y avoir plein de changements. S'il joue dans une équipe qui est pas au niveau. Greenwood, tu vas l'avoir contre toi. C'est pas un mec qui va pousser l'équipe, qui va tirer l'équipe vers le haut. Donc c'est en ça que je dis que je pense qu'il faut qu'il s'en aille aujourd'hui et qu'il est au bout de l'aventure avec l'OM.
Vincent, où est-ce qu'il pourrait signer?
Ah oui, il peut signer.
Quel type de club, je veux dire? Quel est son niveau, quoi?
Mais non, mais il a du talent, mais après, je sais pas s'il en a vraiment, en vérité. Je sais pas.
Il en a, mais on peut pas lui enlever ça.
Vincent,
c'est pas rare ce genre de mec. Ce que je veux te dire, il a du talent, mais des mecs comme ça, c'est pas rare.
Oui, tu veux dire, c'est pas un phénomène.
En plus, ça peut être un phénomène. En plus, les mecs commencent à connaître un peu sa réputation. C'est-à-dire, je parle pas de ce qui s'est passé en Angleterre. Je parle de sa nonchalance. C'est pas un leader. Il faut un minimum, quand on dit leader, bien sûr qu'on s'en fout qu'il soit leader. Mais un minimum d'entrain. Quand tu marques des buts, il faut un minimum d'entrain. Faut un peu. L'an prochain, Marseille pourrait s'en servir comme leader puisque ce sera le meilleur joueur qui ira sur le terrain s'il le garde. Mais est-ce qu'il en est capable?
Mais non, il est
pas
leader naturellement.
Moi, je te dis le premier. Si tu prends pas assez d'oseille, il faut le garder. Mais la sortie, je ne suis pas si sûr que ça, parce que ça peut tenir. Parce que si
après, il faut voir sa capacité à progresser.
Je sais pas. C'est exactement ce que tu dis.
Il faut voir sa capacité à progresser dans
quel aspect.
Mais justement, il a que 24 ans, donc.
Laisse Claude dire ce qu'il a à dire.
Moi, je vous dis sincèrement, à l'entraînement à l'OM, chez les joueurs qui l'ont côtoyé, moi il y en a plein et pourtant c'est des joueurs qui ont joué dans des grands clubs qui me disaient, il est au-dessus du lot, mais il est deux fois plus fort que la moyenne. Donc il a quand même une capacité technique d'enchaînement. Bah, ça veut rien dire. Ouais. Quand t'accélères avec le ballon et que tu vas déjà plus vite que ceux qui n'ont pas le ballon.
Il
a mis 48 buts en deux saisons. Faut pas non plus croire que c'est un peintre. Après, à 24 ans, il est peut-être en droit de progresser dans ce qu'on lui a reproché, à savoir l'investissement défensif. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de plomb dans la cervelle et qu'il va mûrir. Enfin, à 24 ans, on n'est pas un joueur totalement terminé non plus. On peut penser qu'il peut progresser et qu'il a déjà une base technique devant le but offensive qui est quand même au-dessus de la moyenne. Ça, c'est un
là où tu as raison, Flo, Eric. Ce genre de joueur, à un moment donné, il faut qu'il trouve le coach et l'équipe qui lui convient. Regarde un garçon comme Ben Arfa, il à un moment donné, il a rencontré un coach et il a fait ses plus belles saisons. Donc ça, c'est vrai
là,
que
Eric,
tu
raison. Pour redonner la parole à Landry, qui est supporteur de l'OM. Salut Landry, 32-16.
Salut, voilà, salut.
Alors, réponds surtout à la question de
Landry à la maison.
Est-ce qu'il faut le garder à tout prix, enfin, le garder ou le vendre à tout prix?
C'est une vraie question?
Oui. Bah, c'est une vraie question au vu des difficultés de l'OM.
Au vu des difficultés de l'OM, c'est simple. Je pense que Kondogbia, il a très bien touché, il a touché un très bon salaire pour jouer, même pas, une vingtaine de matchs, je pense, même sur deux saisons. Je pense que Højbjerg, c'est une blague absolue, mais bon, il est devant lui, c'est pas grave. Je pense que, en se séparant des autres gros salaires, je pense que garder Greenwood, c'est une bonne option.
La différence, c'est que Greenwood, tu sais que tu peux, parce qu'il y a des offres, les autres, c'est moins sûr. C'est ça la différence.
Je pense que Højbjerg, c'est un joueur qui a quand même une bonne valeur marchande.
Il y a une notion dont tu ne tiens pas compte dans ton raisonnement. Ouais, c'est qu'on leur a donné des 500 000 et des 600 000. Tu sais ce qu'ils vont te faire, ces joueurs? Ils vont te dire, vous voulez que je parte? Alors moi, j'ai ce club-là. Par contre, ils me donnent que 300 000. Mmh. Ben, vous allez mettre les 300 000 qui manquent, les gars. Mmh. Et c'est comme ça que ça va se passer. Les mecs, ils partiront jamais avec ces salaires-là.
Alors, merci, Landry. Désolé, c'est un peu court, mais on est vraiment pressé par le temps. En revanche, on garde flou encore 2 minutes de plus avec une info supplémentaire sur l'OM qui n'a rien à voir avec notre débat, qui concerne le Vélodrome, dans un instant sur RMC, juste avant le cri de gueule.
RMC jusqu'à 18h, le super Moscato Show.
Vincent Moscato.
17h32, on y revient au Mastic. Bien sûr, on est dans le super Moscato Show. Pierrot, dans un quart d'heure, le Kikadi.
Dans un quart d'heure, le Kikadi. Vous pouvez encore vous inscrire Kikadi par SMS au 7-32-16 à gagner une cave à vin silencieuse de 12 bouteilles. Cave à vin, la sommelière. Avant de faire le bilan de la première phase de cette Coupe du Monde à 48, on reste sur Marseille avec une info RMC Sport qui concerne le Vélodrome, Florent Germain.
Oui, c'est une communication qui va être imminente de la part de l'OM et de la future marque qui... donc va poser son nom sur la façade du Vélodrome. Vous savez que le partenariat avec Orange concernant le naming arrive à échéance et désormais donc l'OM reçoit Strasbourg, vous savez, le 22 août pour la reprise du championnat. Le match se jouera au CEPAC Vélodrome.
CEPAC
donc c'est Vélodrome. La caisse d'épargne CEPAC qui est un partenaire historique de l'OM depuis de longues années, qui s'était positionné notamment récemment avec l'équipe féminine. Et donc il y a un contrat de 7 ans qui a été signé et qui va être annoncé entre l'Olympique de Marseille et le CEPAC Vélodrome, donc validé évidemment par la ville aussi. On n'a pas le montant exact, même si on nous fait savoir que c'est légèrement supérieur à ce que donnait Orange. Orange versait 2,5 millions d'euros par an. Donc c'est
là, on sera aux alentours de 20 millions sur 7 ans, quoi. Approximativement.
Un peu plus peut-être, 2,5 millions.
Comment proposer plus
un peu plus que 2,5 millions d'euros.
La DZ Mafia Vélodrome, il proposait combien?
Arrête, Vincent.
Donc voilà, donc l'habillage se fera à partir du mois de juillet, puisqu'il y a un concert, celui de Bad Bunny, pour être précis, le 1er juillet. Ah oui. Et ensuite, il y aura les lettres en noir. CEPAC Vélodrome. Il y aura le logo rouge également de la banque, qui est une banque historiquement du Sud. Donc il y a un ancrage aussi local qui plaît beaucoup à l'Olympique de Marseille. Donc CEPAC Vélodrome, c'est le futur nom du stade.
Très présent avec l'OM depuis de longues années.
Est-ce que tu vas dire le
CEPAC? Ça donne le droit à quoi, ça?
Ah ben, sous, ça donne des sous.
Mais oui, mais ça donne le droit. Oui, non, mais pour celui qui donne des sous, ça donne le droit. Ça donne de la visibilité.
Voilà, la visibilité au nom de la marque. Puisque désormais, on dira le CEPAC Vélodrome, comme on disait l'Orange Vélodrome. Alors après, le pari, c'est que ça rentre dans les mœurs. Sinon, les gens continuent à dire Vélodrome.
Mais tu crois que les mecs, en s'affichant, plus personne ne va aller à la banque et dit si c'est géré quand même les mecs de l'OM, on va s'arracher, je te le dis.
Bon, Flo, merci pour cette info.
Merci,
Flo.
Ciao, les amis.
On retourne sur la Coupe du Monde.
RMC,
le cri de gueule du Super Moscato Show.
Donc on arrive à la fin de la phase de poule et donc pour moi la Coupe du Monde à 48 c'est pas validé. Voilà, c'est pas validé.
Ah bon.
Voilà pourquoi. Bah dans cette première phase pas assez d'enjeux finalement. Mmh. Bah oui, il y a pas assez de matchs vraiment comment dire avec une échéance directe quoi. Donc ce qui les rend moins intéressants. Bon, ça c'est un détail mais moi j'adore ça, c'est très difficile de se projeter sur le tableau des 16e. Donc ça c'est pas tant les 48, c'est plutôt l'histoire des meilleurs 3e qualifiés. Moi je déteste ça, on y comprend rien. Mmh. Et puis c'est pas équitable. Et je sais pas si vous avez remarqué mais en fait dans cette première phase, il y a quasiment pas eu d'affiches Il n'y a pas eu de gros chocs.
Brésil-Maroc.
Oui, voilà. Et c'était un premier match, donc il y a un enjeu moindre.
C'était le seul, d'ailleurs.
Et encore, on regarde, là, il y a une belle affiche entre. Pour moi, c'est une belle affiche, j'ai envie de la voir, la France et la Norvège.
Oui, France-Norvège.
La Norvège, voilà, Norvège, mais... la Norvège est une équipe qui est. C'est une curiosité, donc on a tous envie de voir ça. Sauf que, normalement, ce match-là, qui a un enjeu important, puisque première, deuxième place, ça, dans l'ancienne formule, ça changeait beaucoup de choses. Là, finalement, à part, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, à part de, pour l'équipe de France, de rester dans son hôtel, de rester de ce côté-là, il fait moins chaud, il y a moins de déplacements, et il y a un tableau qui semble un petit peu plus facile.
Et encore,
on n'en est pas sûr. On n'en est pas sûr parce que si tu finis second, que tu joues,
Brésil peut se retrouver.
Voilà. Donc, si tu veux, il n'y a pas, j'ai le souvenir que j'ai, mais peut-être je me trompe, c'est que entre finir premier et finir second, il y avait, ça te facilitait vachement plus le parcours. Alors que là, voilà. Donc, si tu veux, alors après, je vais juste te rétorquer, Pierrot, que, malgré tout, on a vu des nations comme le Cap-Vert, qui n'auraient jamais fait de Coupe du Monde. Curaçao, le Cap-Vert, Haïti, le Curaçao, qui a fait des perfs là. Il y a des équipes qui ont fait des perfs là. Même l'Irak contre nous. Ces nations-là, malgré tout, en jouant la Coupe du Monde, elles vont progresser. Et moi, je trouve ça plutôt bien. Mais là où tu as raison, c'est que il y a pas de grosse plus-value sportive.
Moi, je vais te dire un autre truc, c'est que il y en a qui ont tout à fait justifié leur présence. C'est le cas du Cap-Vert, mais il y a aussi moi un truc qui me pose un souci, c'est que tu as deux équipes qui pour moi sont parmi les pires de la Coupe du Monde qui sont déjà qualifiées en 16e. Je parle de la Bosnie et de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud, le plus dingue, c'est qu'ils sont qualifiés deuxième de leur groupe. Alors ça n'empêche rien, enfin ça change rien à la dimension historique du truc et de leur joie, de la joie des supporters et tout. Mais ça veut dire qu'il y a encore pire en fait. C'est-à-dire qu'il y a encore pire que l'Afrique
du
Sud.
Pourquoi c'est pire?
Parce qu'ils sont, ils ont fini devant la République tchèque, par exemple. Ouais. Tu vois.
Oui, mais c'est pas de leur faute. Eh oui, c'est pas de leur... Si les Coréens et les Tchèques, moi, ils sont
c'est
nuls.
C'est pas une critique à l'Afrique du Sud, ça veut dire que tu fais entrer dans le tableau final des équipes qui sont pas bonnes. Donc, c'est pas très intéressant.
Là, justement, ça marche pas ce que tu dis, Pierrot. Puisqu'ils finissent deuxième. Non, ça marche pas. Puisqu'ils finissent deuxième, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, ils auraient été qualifiés dans une autre formule. Et dans un groupe
plus. Parce que dans une autre formule, ils auraient eu un groupe plus relevé. Ils auraient sauté.
Mais justement, la Tchéquie et la Corée du Sud, c'est des équipes qui faisaient les Coupes du Monde, ça.
Oui, mais apparemment, ils sont pas bons.
C'est pas le Curaçao, c'est pas le Haïti, c'est pas le Qatar, c'est pas le...
Non, mais ils y sont pour rien, je suis d'accord avec vous. Ce que je veux dire, c'est que l'Afrique du Sud, avec ce qu'elle nous a montré, qualifiée dans le tableau final, ça dévalue la valeur de cette Coupe du Monde, c'est tout.
Oui, mais ça, c'était à prévoir, Pierrot, tu peux pas être...
Plus tu multiplies les équipes, plus le niveau baisse, ça, c'est classique.
Mais là, on en a la preuve, c'est ce que je veux dire.
Mais après, je suis pas persuadé le foot Haïti, parce que l'Haïti va être en Coupe du Monde, ou Curaçao va être, ça va faire une grosse plus-value pour ces pays-là au niveau du foot.
Je suis pas comme toi, Pierrot.
Il n'y a pas d'économie.
J'ai vu pas tous les matchs, mais certains matchs, dont les matchs de Curaçao, de Haïti, c'est intéressant. Finalement, il y a un côté exotique.
Tu vois jamais.
Oui, côté exotique. Non, mais c'est vrai.
Sans exotisme, Denis, puisque on l'a fait ce débat-là et on avait dit ce que tu as dit, Pierrot, il n'y a pas de souci. Et on avait dit ça donnera de la visibilité à certaines équipes, mais on pensait que ces équipes-là prendraient des branlées. Ben c'est pas le cas pour toutes ces équipes-là. Et bon, je suis désolé, contrairement à ce que dit Vincent, le Cap-Vert, par exemple, il y a des joueurs du coup, grâce à la Coupe du Monde, qui vont aller dans des championnats où ils vont progresser eux personnellement. Et ils vont faire progresser leur équipe quand ils vont revenir en sélection. Donc c'est pas que l'économie du pays va pas monter parce qu'ils ont fait la Coupe du Monde, mais déjà ils vont gagner des sous déjà. Donc et ensuite le niveau global va monter parce que il y a des joueurs qui vont aller prendre de l'expérience ailleurs et parce qu'ils auront été vus pendant cette Coupe du Monde.
D'accord, Eric, c'est minime.
C'est pas minime.
Oui, mais tu fais un truc de la Croix-Rouge, tu fais une compétition de la Croix-Rouge. ou machin tout ça. Là, tu fais la Coupe du Monde, c'est un truc élitiste. C'est pour les meilleures équipes avec un très gros niveau. Si tu commences à faire ça, pourquoi pas 72 l'année d'après?
Le problème, c'est la nouvelle formule.
Mais bon, faut savoir si tu fais une Coupe du Monde ou une Coupe.
J'ai un dernier truc à vous proposer, parce qu'il y a une petite dinguerie croustillante qui arrive. C'est le match de samedi entre l'Algérie et l'Autriche. Alors, d'abord, un match nul qualifie les deux. Okay. Ça, c'est une première chose à avoir en tête. Mais ensuite, les deux équipes sont actuellement deuxième et troisième avec le même nombre de points. Il semble qu'il vaut mieux finir troisième que deuxième, puisque le deuxième affrontera l'Espagne.
Ah ouais.
Le troisième, probablement la Suisse. Le hasard fait que c'est le dernier match de poule. Donc, toutes les données seront connues avant la rencontre. C'est-à-dire que ces deux équipes seront exactement leur sort en fonction du résultat. C'est ce qui veut dire que peut-être...
On va le surveiller ce match.
Peut-être qu'on va avoir une match où personne n'a intérêt à gagner. Ou alors, encore pire, il est possible que l'Autriche ait intérêt à perdre, mais que l'Algérie ait intérêt à ne pas le gagner.
Dans tous les coups du monde, on l'a vu.
Ça n'arrive pas quand t'as pas l'histoire des meilleurs.
Même à 36, ça a existé, ça.
Oui, bien sûr, ça a toujours existé.
Dis-moi, rappelle-toi du fameux Allemagne-Autriche.
Oui, mais Allemagne-Autriche, c'était que 24. C'était 82.
Ce cas de figure-là existe dans toutes les formules, Pierrot.
C'est plus simple quand t'as pas de meilleur troisième, quand même. C'est-à-dire qu'il y a moins de chances d'arriver.
Ouais.
Oui, mais c'est déjà arrivé pour un dernier match de poule, France-Norvège par exemple, où tu es à égalité et où il vaut mieux finir second que premier. C'est déjà arrivé et on a même fait les débats dans cette émission. Et c'est même arrivé dans d'autres sports, dans le basket notamment, rappelle-toi, où on évitait l'Espagne d'ailleurs, je me souviens même. Ça existe dans tous les sports et dans toutes les formules, ce truc-là. Donc ne pointe pas ça du doigt comme une perversion de la nouvelle formule. Parce que ça c'est récurrent chaque fois, ça.
Allez, c'est l'heure du Kikadi.
Non. Comme tous les jours à la même heure, Jérôme.
Mais quelle honte. Mais on est vigilant. Je prends la meilleure émission du PAF. On fait plus d'un million sur deux heures.
On voulait pas t'avoir, Jérôme.
Non, mais franchement. Et puis quand je viens d'entendre le dernier débat, valait mieux que j'intervienne quand même pour dire que Rotten s'enflamme. Il y a des vrais experts sur le foot avec Christophe Dugarry et Benoît Costil aujourd'hui pendant deux heures. On va se régaler. On va parler de l'équipe de France. Est-ce que c'est important de concerner tout le monde dans le turnover, peut-être de.
Vous êtes au Flora là tous les soirs, non?
On est au Flora tous les soirs, dans le 9e arrondissement. Et Vincent, je peux te dire, il fait super bon. Venez en terrasse, vous allez vous régaler. Vraiment, il fait pas trop chaud, ça va. On est à 18h25 dans Rotten sans flamme. On fera le procès de Neymar au Brésil. Et puis, on aura aussi Brice Djadjedje, ancien international ivoirien et ancien de mes coéquipiers, sur la première qualification potentielle des éléphants. Ça va être une belle émission, non?
Ah, ça va être magnifique.
On va se régaler.
Heureusement que tu es venu nous donner le programme, finalement.
Dans un instant, le Kikadi. Allez, reviens tout de suite dans le Super Moscato Show.
RMC, jusqu'à 18h, le Super Moscato Show.
Vincent Moscato.
17h48, le Super Moscato Show, top jingle.
RMC, le Kikadi du Super Moscato Show.
Nous accueillons Dominique et Simon. Bonjour Dominique et Simon.
Bonjour.
Et nous allons faire le tirage au sort des équipes. Ensuite, Dominique choisira. Donc, mon coéquipier sera.
Ton coéquipier s'appelle Vincent Moscato.
Très bien. Dominique, veux-tu jouer avec Moscato d'Orient ou Charvet d'Imeco?
Je vais jouer avec Pierrot.
Ah oui, avec Dominique toi. De Castres, j'espère bien quand même que tu joues avec moi.
Je vous rappelle donc les équipes. Allez. Denis, Eric d'Imeco et Pierre d'Orient avec Vincent.
Mais pourquoi c'est toujours Vincent? Je comprends
pas.
J'ai trouvé trois hier.
Moi,
ça me choque. J'ai trouvé trois, c'est gratuit.
C'est choquant.
Comme ça.
C'est choquant.
Moi, ça me choque.
Vincent, le Castres, ils t'ont jamais appelé, non? Ils t'ont jamais essayé de te débaucher?
Ils devaient entraîner Castres, Vincent.
Tous les ans.
Pourquoi tu n'y es pas allé, quoi?
Parce que c'est pas quand même les Castres.
Non, t'as même pas Castres.
Tu sais, moi, les grandes villes, après, je me perds.
Ouais, je comprends.
Allez, on y va.
C'était à Bordeaux.
8 minutes. Il a failli griller une énormité sur Castres. 8 minutes 30 de ce qui a dit une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0 à la fin. C'est parti, on y va. Qui a dit?
Allez.
Qui a dit? Quand Paul m'a dit qu'il ne serait pas là pour les championnats de France, je lui ai répondu qu'il était gentil de me laisser une dernière chance de porter
les maillots. Manier,
l'Apéra. Une année supplémentaire. Non.
Prudhomme.
Visma, Lisebike.
Visma Lisabike. Visma.
Alors, ah non, c'est.
Grégoire.
Non.
Non.
Mais donc c'est initial. B.A.
Armirail.
Armirail.
Ah, je l'ai là.
Bravo, Armirail. Je l'ai vu. Je l'ai vu hier, ça. On l'avait tous.
Je l'ai, Jean-Paul me l'a fait.
Jean-Paul te l'avait fait.
Oh. Non, mais Jean-Paul, il te le fait. Et toi, tu le dis pas, toi.
Armirail.
Quelle andouille.
Aïe, aïe, question en un coup.
Quelle andouille.
Ah, ça, oui, le bel, même.
Ah, intéressant. Une seule proposition possible.
C'est quoi ça? C'est quoi ça?
C'est un coup.
Oui, mais c'est BFM, là, j'ai pas
entendu. Non, c'est un coup. Deux coups. Une seule proposition possible.
D'accord.
S'il marque un essai samedi en finale du top 14, quel joueur peut devenir le recordman d'essai en finale de top 14?
Kevin Thomas. Ça doit être
éliminé.
Alors attends, c'est Toulousain. C'est Toulousain. C'est Toulousain. Ramos.
C'est obligatoirement
Toulousain. Thomas Ramos, oui, Vincent Moscato. Et tu aurais pu citer également Antoine Dupont.
Dupont marchait aussi.
Dupont et Ramos ont marqué deux essais dans des finales de top 14. S'il y en a un qui marque, ils peuvent devenir le recordman.
Devant Denis Charvet.
Devant Denis Charvet.
Comment t'en as mis 4 en finale?
4 en finale.
Ça alors, pas ça marqué, marche pas.
Top 14.
Ah, top 14, époque moderne.
Et bien sûr, mais à l'époque.
On parle pas de la préhistoire du rugby.
Non, top 14. Top 14. Non. Denis, il a marqué 4 essais.
3-0. Bravo, Vincent.
4 essais en deux finales, Denis?
Oui.
C'est beau, ça.
C'est
1 et 3.
C'est le Mbappé du
show. C'est dommage que je connais plus les essais. Non, mais après, quand même, Denis, quand je vois comment Vincent te manque de respect, des fois, quand même.
Vincent, il manque de.
Vincent, c'est mieux qu'on ait plus les images, comme ça, on peut pas vérifier que c'est vrai ou faux.
Même Pierrot, il se fout de moi, Eric.
BFM TV.
Régulièrement, je regarde sur YouTube. Ton essai de 80 mètres. Jamais, tu l'as vu une fois, tu l'as jamais regardé. Purée, tu vois comme il part là-bas les chevaux. Ah,
c'est BFM. BFM, ouais.
Attends.
Qui qu'a dit?
On va te donner. Heureusement qu'il y avait le parking pour l'arrêter.
Mais c'est un couleur encore. Hein.
Qui qu'a dit? Au travail, au bureau pour les hommes, si c'est un joli Bermuda bien coupé, une chemisette qui a de l'allure,
si ah,
comment il s'appelle?
Je permettrais cette tenue, oui, au travail, moi.
Comment
Niel, Xavier Niel, non,
Martin.
Il est aux affaires.
Martin, le
il est aux affaires.
C'est pas le
Macron.
Non.
Macron.
Attal.
Il est quoi?
Il est plus. Mais il est
le cornu.
Mais là, il est ministre du travail. Hein,
alors, ministre du travail.
Qui ah, Farandou.
Farandou.
Ministre du travail. Oh, oui, quand même.
Jean-Pierre Farandou, qui vit dans les circonstances de canicule. Pierrot, si tu veux venir en Bermuda, ouais. Lui, il accepterait. Ça ne veut pas dire que ton patron accepte.
Ah ouais, non, mais alors, Pierrot en Bermuda, c'est comme cochon avec un serre-tête, hein, pareil.
Oh,
c'est
joli.
Alors là, quand même,
c'est vrai que toi, Bermuda, avec ses gros mollets.
Là, tu vas fort, quand même.
Ah non, mais moi, je ne me mets plus, moi, avec mes petites jambes, peu cher.
C'est les gros mollets.
Moi, je suis handicapé, moi, monsieur Moscato.
C'est vrai que tu ne mets plus de petits shorts, Eric.
Allez, 3-1 pour l'équipe Moscato d'Orient.
Dans un instant, la suite et la fin. Qui a dit peut-être en Bermuda. Bon, sans ça, je gênerait pas de venir en Bermuda.
RMC, tout de suite, la fin du Kikadi.
Alors, un œil sur le chrono, c'est 4 minutes 30. Un œil sur le plan shot, comme vous dites, c'est 3-1 pour l'équipe Moscato face à l'équipe d'Imeco. Oui.
Question auditeur.
Dominique et Simon.
À partir du 3 juillet, qui sera le président de l'Olympique de Marseille?
Richard.
Dominique.
Bravo, Richard. Dominique. De Castres. 4-1.
Question en un coup.
Ah bon? C'est pas nous?
Aïe.
Bien joué.
Ils se sont fait, les autres, ils croyaient que c'était pour eux.
C'est la Coupe du Monde de foot. Révisons notre Coupe du Monde de foot.
Allez.
Lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi dernier, quand Kylian Mbappé était remplacé face à l'Irak, qui est sorti du terrain, qui est devenu le capitaine de l'équipe?
Oh. Pas Mécano.
Éliminé.
Oh là là, je l'ai pas là. Attends,
Lundi,
on réfléchit.
Qui a pris le brassard?
Ah non, je le vois.
Mais Rabiot, non?
Éliminé.
On réfléchit.
Mini.
Éliminé.
Mais non, mais c'est facile.
Il est en équipe de France depuis 2014, c'est Lucas Digne.
Ah oui, Digne.
Et oui, Lucas Digne, latéral gauche.
Mais Vincent, il avait dit quoi?
Mais pourquoi j'ai pas dit Digne? Moi, je dis Rabiot.
Il a dit Ménian.
Je crois que Adrien ne respecte plus du tout Vincent.
Mais non, il a dit Ménian.
Il a dit Ménian. J'ai pas dit Ménian, j'ai rien dit.
Non, mais je te jure qu'il a dit.
Notre pour moi, j'allais le dire Digne.
C'est un manque de respect.
Un manque de respect.
Moi, je m'en fous. Non, mais normalement, on récupère le point.
Qu'à dire, dans ta question, tu dis bon, on sait que Vincent est une pipe, mais je vous pose la question.
Ça va concerner la prochaine, du coup, là. En un coup.
C'est pour tout le monde, ça?
Alors, par exemple, ça, je peux vous dire en un coup, si Vincent la trouve, il rend le point.
Voilà.
Ah, d'accord.
Aïe.
Je vais la trouver.
Révisons la Norvège.
Oh là là là.
Oh ouais, mais
non, toi,
Mais attendez d'avoir la question avant de râler.
Je sais qui c'est, je me souviens plus son nom.
Vous êtes très râleur. C'est la France, vous êtes français, messieurs.
Comment il s'appelle, l'ancienne avançante 98?
Il a joué en France.
Ouais.
Quel est le joueur le plus capé de l'histoire de la Norvège?
Il a joué en France?
Ouais.
Mais il n'a pas joué en France, lui.
Mais si,
Sorensen.
Éliminé.
Comme je ne l'ai pas, je vais dire Torre André Flo.
Éliminé.
Ah non, il a pas joué en France. Comment il s'appelle? C'est pas le
sélection.
Il a pas joué. Il a pas joué à Lyon. Ah non.
Non.
Ah putain.
C'était pas
avant, Eric, c'est le Norvégien. Attends. Ah oui, c'est celui qui a joué à Lyon devant.
Non. John Arne Riise.
Riise.
Il a joué à Monaco entre 98 et 2001.
Oui, Riise.
John Arne Riise.
Tu penses à John Carou?
C'est introuvable.
Carou. Eh oui.
Il a joué également.
Je l'ai dit, Carou.
C'est trouvable. Il a également joué à Liverpool. Riise.
C'est pas Carou.
T'imagines si Vincent il avait dit Riiseux, ça aurait été énorme.
Riiseux, ouais, c'est vrai.
Non,
c'est
mais
vrai.
Là, s'il dit Riiseux, je quitte définitivement.
Je me mets en vacances du Moscato Show.
Faites pas une polémique d'un truc qui n'est pas arrivé.
Et qui n'arrivera jamais.
Qui a dit? À l'époque, les comptes, on ne les connaissait pas trop. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait venir prendre vos meubles si on n'avait pas payé. J'aurais dû être entouré, je l'avoue, à l'époque.
Goya.
3-4, Chantal Goya, oui. De 3-4 grands hommes d'affaires. Chantal Goya sur RTL qui confesse avec son mari.
Mettre la boule noire, Lenny.
Oui, non. Demain,
il y a match. Hein.
Ouais. Chantal Goya qui.
Tu croyais que tu es en vacances?
Avec son mari Jean-Jacques Debout, elle doit encore 2 ou 3 millions parce qu'ils ont mal géré leurs sous. Voilà.
Ah merde. Alors,
elle a vendu 40 millions d'albums quand même, ouais. C'est pas possible.
Non,
quoi.
Mais comment elle a fait elle aussi quand même?
Je sais pas. Moment, mais Jean-Jacques Debout, peut-être c'est pas le meilleur gestionnaire de l'histoire.
Alors 5-1.
Qui a dit?
Il reste un peu moins d'une minute.
Qui a dit? À l'époque, j'avais fait venir Barthez à Toulouse et je lui avais demandé ce qu'il pensait de moi en tant que président. Il m'avait dit que j'étais à côté de la plaque.
Ah, c'est comment il s'appelle plaque. Celui qui.
Un président, celui qui a quitté Toulouse depuis.
Mais oui, qui fait la restauration de l'Étrée maintenant.
Mais non, l'autre. Il est dans l'immobilier.
Non, il a été à Liverpool, il a été à la Juve.
Ah, Comolli.
Comolli.
C'est moi là-haut.
Mais Pierrot. Ouais, non, c'est
pas grand-chose, c'est pas Adrien.
Eric,
t'as pas été très bon aujourd'hui.
Damien Comolli.
Alors écoute-moi, tu sais quoi, on va faire les comptes entre nous deux et tu vas voir qui c'est qui n'a pas été très bien. Ça va vite te faire.
C'est pas fini.
Pourquoi un papier sur Barthez dans l'équipe ce matin? Parce que Zidane voudrait faire venir Barthez dans le staff de l'équipe de France quand il sera en place.
Voilà, ça y est, la République des copains, ça commence.
Si, ça. Il est compétent, Fabien, il connaît le sport.
Oui, certainement. Il a pas bossé en tant qu'entraîneur gardien depuis 50 ans.
Donc, à ce sport-là, c'était remarque, tu me diras, c'était demain un sport de cancre. Après 20 ans, tu peux revenir.
Vous critiquez une décision de Zizou, là?
Non, pas du tout.
Mais oui, non, mais Zizou.
Oh, dis-moi, tu nous as dit la balda, là, Adrien, s'il te plaît, là.
C'est fini, 59.
Non, Zizou, je crée le pire, je te le dis.
Ah bah, super. Il est 17h59. Dans 50 secondes, c'est Rotten sans flamme spécial.
S'il y a la Golden.
Coupe du monde. S'il y a la Golden Carotte, c'est 0-0 et balle de match. La Golden Carotte n'est pas là. Victoire de Dominique.
Bravo, Dominique. On a été fantastique.
Très, très bon.
Le Kikadi sur RMC avec la sommelière. Des caves à vin innovantes de marque française pour conserver vos bouteilles chez vous. Rendez-vous sur lasommelière.com.
On laisse la place à Jérôme Rotten et Benoît Boutron pour Rotten sans flamme. Et on se retrouve demain 15h pour un nouveau Super Moscato Show sur RMC.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.